Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jacqueline Voraz au micro de Radio UDFM avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Bienvenue, excellente journée à vous tous qui nous suivez dans l'économie en direct sur IDFM Radio, la radio valdoisienne en FM sur 98.00, web radio sur 98.fr, en DAB+, sur toute l'Île-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli mobile. Aujourd'hui, vendredi 9 juin, association 60 000 rebonds que nous connaissons bien, marché de la traduction, formation en logistique seront les thèmes de ces 90 minutes à l'antenne. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Klein. Bonjour Laurent.
Bonjour Jacqueline.
Ravie de vous accueillir sur IDFM Radio une nouvelle fois, cofondateur du consortium Nakano. Vous êtes responsable aujourd'hui de l'agence 60 000 rebonds du Val-d'Oise. L'occasion pour nous de faire le point de cette association devenue incontournable pour les chefs d'entreprise en post-liquidation. À vos côtés, Christine Coutant. Bonjour Christine.
Bonjour Jacqueline.
Coach professionnel, alors PCC, ICF, vous nous direz ce que c'est tout à l'heure. Formatrice en coaching et en management, équipe et projet. Directrice du cabinet Arancy. Une expertise que vous exercez en accompagnant l'association 60 000 rebonds. Vous nous direz comment, pourquoi et quel est le savoir-faire nécessaire face à ces profils particuliers d'entrepreneurs. À vos côtés, Jamila Ouzine. Bonjour Jamila.
Bonjour Jacqueline.
Merci d'être de nouveau avec nous ce matin.
Merci à vous.
Fondatrice et directrice générale ADT International, Language Wire. Je sais pas si
c'est
je
ça,
dis
bien. C'est bien prononcé.
Et élue de la CCI 95. ADT International, spécialisée en traduction et interprétation, une entreprise ambitieuse qui cherche à évoluer et grandir. Vous nous expliquerez en quoi consiste votre profession et quelle stratégie vous avez mise en place pour favoriser une croissance externe.
D'accord.
Et à vos côtés, petit Sam Tati. Également, bonjour petit Sam.
Bonjour Jacqueline.
Également, merci pour votre présence dans nos studios.
Merci.
Fondatrice et présidente directrice générale de Procarist, administrateur initiative 95-78. Petit Sam, j'avais eu le plaisir en son temps de vous recevoir dans le cadre de la Fondation Les Bienveillantes en compagnie de Franck Besson, aujourd'hui associé à Laurent Klein chez Nakano. C'est le pur hasard qui fait qu'aujourd'hui vous êtes ensemble sur ce studio.
Ouais. Les choses doivent se faire un jour ou l'autre.
C'est vrai. En tout cas, tout ça pour dire que le Val-d'Oise, c'est une grande famille pleine de ressources. Alors, Procarist, c'est une entreprise spécialisée dans la formation professionnelle pour adultes et la formation continue, avec un accent particulier sur la formation en logistique, le conseil et l'accompagnement en logistique et transport. Vous nous raconterez la genèse de cette entreprise, devenue un beau fleuron du Val-d'Oise, et toutes les subtilités entre les différents types de formations. Tout ça, c'est vrai, c'est pas toujours évident.
Avec plaisir, il n'y a pas de souci.
Merci, petit Sam. Bienvenue et merci à chacune et chacun d'être en direct sur IDFM Radio, une émission que vous pourrez bien sûr retrouver en podcast sur le portail de la radio. L'économie en direct, c'est aussi des chroniques. Et à présent, nous avons rendez-vous avec Gérard Vespierre, chercheur et conférencier en géopolitique, auteur de notre chronique bimensuelle « Décryptons le monde » et avec lequel nous allons faire ce matin un tour des actualités internationales. Bonjour Gérard.
Bonjour Jacqueline.
Alors évidemment, on va parler de la Turquie et de son président Recep Erdogan, qui ont été des sujets que vous avez eu l'occasion d'aborder, notamment avec cette élection présidentielle et dont les résultats étaient très attendus. Vos analyses conduisaient à penser que la réélection d'Erdogan allait être très difficile, voire presque impossible. Gérard, ai-je correctement analysé vos analyses ?
Après de si nombreux décryptages en commun, Jacqueline, il me semble quasiment impossible que votre analyse de mes analyses soit erronée. Vous avez raison, l'ensemble des observations politiques, économiques et aussi internationales que j'avais recueillies et que j'ai eu le plaisir de présenter penchaient en effet vers une possible défaite du président sortant.
Alors, que s'est-il passé? Comment le président Erdogan a-t-il pu gagner? Certes, avec un petit résultat, 52,2%, et donc une faible marge de 4,4%, mais gagner quand même. Erreur d'analyse, moyens électoraux en dehors des limites. Quel regard portez-vous sur cette élection, Gérard ?
Eh bien, Jacqueline, je commencerai avec vous par la toute dernière partie de votre question et votre hypothèse des moyens hors limite, c'est-à-dire bourrage d'urne en faveur du candidat présidentiel sortant et puis d'autres moyens illicites sur les listes électorales. L'opposition était totalement unie contre donc le président sortant, les observateurs internationaux étaient nombreux, donc des moyens humains d'observation étaient vraiment présents sur le terrain, et je ne crois pas qu'il y ait eu vraiment en tant que stratégie qui aurait mis en cause le résultat des moyens illicites. Je mets de côté cette hypothèse. Par contre, il est bien évident qu'il y a l'accès aux moyens d'information d'un président sortant, donc qui dispose de la machine d'État, d'information, qui dispose d'un parti important, l'AKP, bien huilé dans les affaires électorales et disposant de puissants financements politiques et aussi industriels. Donc, le déséquilibre, si déséquilibre il y a eu, est plutôt de ce côté de la puissance médiatique d'Erdogan qui a été vraiment mise en place. Alors, est-ce qu'il y a eu erreur d'analyse ? Oui et non, puisque finalement, les difficultés pour Erdogan ont été réelles, puisqu'il n'a pas été élu au premier tour, comme il y a 5 ans. Donc, le fait qu'il ait été amené à cette situation d'un deuxième tour, où il a gagné donc, de peu, pratiquement le même score qu'il y a 5 ans, prouve qu'effectivement, les résultats ont été difficiles. Mais c'est plutôt peut-être du côté des sondages qu'il faut regarder, car les résultats du premier tour ont été à l'inverse de ce qu'annonçaient les sondages, aussi bien dans le classement des candidats, l'opposition était donnée en tête de 5%. Là, il y a certainement un problème. Donc, ont-ils été manipulés par l'opposition ? C'est une hypothèse à garder en tête parce que quelques jours avant le scrutin, un des candidats de l'opposition marginale s'est désisté en disant « je ne veux pas faire perdre mon camp ». Donc il y avait certainement dans l'opposition une vision de cette situation-là, que les résultats n'étaient peut-être pas en vue, n'étaient pas à la hauteur des sondages. Donc la question doit être posée.
Et maintenant que la réélection d'Erdogan est acquise, comment voyez-vous se dessiner ce nouveau quinquennat ? Quelles vont être, selon vous, les priorités de Recep Erdogan ?
Il a été très présent à l'international, mais les priorités turques sont vraiment à l'intérieur, l'économie qui va très mal et la reconstruction, bien sûr, après le séisme qui a frappé donc l'est du pays. Donc comment va-t-il gérer l'inflation ? Il a eu une gestion idéologique, religieuse. Normalement, il n'est pas bien vu et de bonne pratique d'avoir des taux d'intérêt, de prêter de l'argent avec intérêt. Donc, Recep Erdogan, au nom de cette idéologie, n'a pas voulu augmenter les taux bancaires pour freiner l'inflation. Et donc, l'inflation s'est répandue dans le pays. Va-t-il être obligé maintenant de faire machine arrière parce que c'est nécessaire, là est la grande interrogation. En tout cas, sur le plan international, il essaiera effectivement de jouer un rôle dans la guerre en Ukraine, étant donné ses relations avec la Russie et Vladimir Poutine. Mais le pays reste divisé, les résultats 52-48% sont quand même très très serrés, même la diaspora est très, je dirais, dispersée. Elle a voté Erdogan à 57% en dehors de la Turquie, mais simplement 51% des Turcs se sont déplacés pour voter, alors que 88% ont voté à l'intérieur du pays. Donc il va essayer de reconquérir avec son parti, l'AKP, la municipalité d'Istanbul. Je pense que ça va être son grand objectif. parce que c'est le poumon économique du pays et que donc la ville a été perdue au profit donc de son maire actuel, Ekrem Imamoglu, qui l'a fait condamner au nom de l'absence de séparation des pouvoirs entre le pouvoir donc judiciaire et le pouvoir présidentiel, et cela va être une querelle à l'intérieur du pays certainement. Et puis il faut aussi intégrer les possibles soucis de santé. Il a dû interrompre sa campagne pour cette raison.
Donc, encore une fois, une affaire à suivre, bien évidemment. Merci Gérard d'être revenu sur cette situation politique turque importante pour la France et l'Europe, parce que proche de nous, par la géographie et l'histoire partagée. Alors, deuxième sujet, nous avons toujours avec vous tourné notre regard vers un pays, une région, et beaucoup plus rarement vers un sujet global, encore moins une expression. Et ce matin, vous avez souhaité que nous nous arrêtions sur une formule que nous entendons de plus en plus souvent, le Sud global. Pourquoi ce choix ?
Eh bien, voyez-vous, Jacqueline, comme vous venez de le dire, son utilisation est de plus en plus fréquente, et peut-être que cet usage ne vient pas à nos oreilles ou sous nos yeux dans des articles par hasard. Cette expression porte des idées. Derrière la montée en fréquence de cette formule, il y a forcément des groupes, des personnes qui veulent vendre ces idées.
Bon, là vous êtes en train d'aiguiser notre curiosité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
À vrai dire, cette formulation s'appuie sur une formule ancienne, les pays du Sud, donc les pays en voie de développement, c'était l'idée à laquelle il a été plus récemment ajouté l'adjectif de global. Donc, dans les années 80, quand est née cette expression, les pays du Sud, c'était pour effectivement parler de l'indice de développement humain, pour évoquer les produits intérieurs bruts faibles. Donc, c'était une description. Mais l'adjectif global, lui, est inductif, il apporte un sens, il induit que les pays du Sud sont homogènes, puisque ce sont globales, solidaires, unis, ce qui n'est pas le cas. Il y a d'infinies différences entre le Brésil, l'Inde, l'Indonésie, le Nigeria, n'est-ce pas, en termes, bien sûr, ethniques, géographiques, économiques, en richesse. Donc, cette illusion de global et d'homogénéité n'est pas du tout le reflet du réel. Et donc, cet adjectif est utilisé volontairement. Il exprime donc un choix, il revêt en conséquence une opinion, et ce choix porte une signification politique. Il est donc important d'en être conscient.
Une analyse très subtile, et donc quel est votre décryptage, Gérard ?
Il serait naïf de penser que dans la période d'affrontement que nous vivons, et je ne parle pas de la guerre militaire, mais de la guerre de l'information, de l'influence, de la guerre informationnelle, que nous l'appelons maintenant, les choses naissent et sont propagées par hasard. Il y a un schéma construit que l'on peut décrire de la façon suivante, la volonté de faire passer le message d'unité, par ce mot global, d'unité du Sud par opposition au Nord dispersé. Autre idée, la volonté d'opposer les démocraties désunies avec le reste du monde uni derrière le leadership de, devinez, la Chine et de la Russie. Troisièmement, il y a cette volonté aussi d'accompagner cette vision avec des informations annonçant sans arrêt le recul des États-Unis et l'inexorable recul du dollar dans les échanges mondiaux. Donc recul des États-Unis en Europe, recul des États-Unis au Moyen-Orient, voyez-vous. Donc il y a une convergence. Il y a donc globalement une idée très organisée d'influencer, de faire croire par petites touches subtiles qui semblent non reliées, mais qui en réalité le sont, à une union du Sud contre le Nord, le Sud gagnant contre le Nord perdant.
Bon, je ne ferai pas la blague qui pourrait nuire à votre analyse. Voilà qui nous éclaire sur le sens de votre démarche, Gérard, de décryptage du monde et des mots à travers cet exemple de décortiquage et de détricotage que vous venez de faire. Une façon de nous alerter sur le danger d'accepter des formules sans y prêter trop attention et donc une mise en garde de conserver nos yeux et nos oreilles très ouvertes. Merci Gérard pour ce nouveau décryptage. Je voudrais rappeler que à nos auditeurs que toutes vos interventions se retrouvent sur votre site internet www.lemondedécrypté.com. C'est gratuit, il faut juste s'abonner. Et Gérard, maintenant on se retrouvera après les vacances puisque nous n'aurons pas d'autres rendez-vous avant la fin de la saison. Je vous souhaite donc un bel été et au plaisir de reprendre nos duos à la rentrée. Bonne journée Gérard.
Avec grand plaisir et bonne matinée avec vos invités.
Merci beaucoup. Au revoir.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios.
C'est l'économie en direct et ce matin, sur notre plateau, nous avons le plaisir d'accueillir Laurent Klein, Christine Coutant, Jamy Laouzine et petit Sam Tati. Laurent Klein, nouveau responsable de l'agence 60 000 rebonds pour le Val-d'Oise. Comment se porte l'association 60 000 rebonds ?
Alors, l'association se porte bien au niveau national, très bien aussi au niveau régional, puisque nous sommes bâtis en fédération. Hein. Et l'antenne du Val d'Oise se porte bien, on est très heureux, on vient d'accueillir quasiment en un mois et demi quatre nouveaux entrepreneurs qui sont venus frapper à la porte de 60 000 rebonds pour être accompagnés suite au dépôt de bilan de leur entreprise. Et puis, tout récemment, une entrepreneuse qui, elle, n'a pas déposé, elle a juste arrêté son entreprise parce qu'elle ne voyait plus le bout du tunnel et qu'elle a préféré arrêter avant d'être en cessation de paiement.
C'est ça, elle a arrêté et elle a quand même préféré vous rejoindre.
Absolument, ouais. Ça a été un choix tout à fait clair de sa part. Elle ne voyait pas le bout du tunnel, elle ne voyait pas comment elle allait s'en sortir et du coup, voilà, elle se pose beaucoup de questions sur son avenir et évidemment, nous, on a vocation à accompagner les gens dont l'activité s'arrête. Donc, mais c'est la nouveauté, ça.
Bien sûr.
Avant le dépôt de bilan, quelqu'un qui arrive, c'est tout nouveau pour nous.
Alors, c'est vrai qu'une carrière de chef d'entreprise, et je pense que Jamila et Tizam pourront le confirmer, est semée d'embûches, dont parfois on ne peut pas se relever. 60 000 rebonds est là pour rompre l'isolement, aider à retrouver confiance en soi et pouvoir construire un nouveau projet professionnel.
Oui, absolument. L'idée, c'est de venir se remettre déjà en situation de bien-être, d'aller mieux, parce que l'échec de l'arrêt d'une entreprise, c'est quelque chose de très douloureux. C'est un chef d'entreprise. C'est aussi quelque chose dont parle peu les chefs d'entreprise. Ils sont pas l'habitude de ça, par définition. C'est quelque chose de rare, heureusement d'ailleurs. Et ils ont tendance à s'enfermer sur eux-mêmes, à couper les ponts. Il est clair aussi que les ponts sont coupés aussi par les fournisseurs, les clients qui n'appellent plus, puisque
c'est
le blackout complet. Et de temps en temps, on a quand même la majorité des entrepreneurs qui disparaissent avec, entre guillemets, un peu une honte, mais qui n'a pas lieu d'être, parce qu'on voit souvent que c'est pas de leur faute aussi s'ils ont déposé. Et donc, ils s'enferment, ils font un peu la politique de l'autruche. Donc, on est là pour les remettre en forme, et c'est le travail du coach et du parrain. Et d'ailleurs, je suis venu avec Christine Couton, qui est coach 60 000 rebonds bénévole, qui en parlera beaucoup mieux que moi, parce que c'est sa profession. Voilà, et en tant que parrain, ils sont accompagnés par coach et parrain pour pouvoir repartir et choisir, effectivement, soit l'entrepreneuriat, soit le salariat. Là, j'en ai reçu deux qui rentrent chez 60 000 rebonds, qui ont tous les deux choisi de repartir en salariat. C'était manifeste, dont un chef d'entreprise qui vient d'arrêter la boîte après 22 ans et qui me dit « Moi, je veux pas repartir dans l'entrepreneuriat, c'est pas mon truc. C'est pas « J'ai fait 22 ans parce que j'ai repris la boîte de papa. J'ai donné, mais je préfère revenir vers le salariat. Je faisais des choses plus intéressantes avant, qui m'amusaient plus. » C'est surprenant.
Laurent, donc c'est vrai que on redit un petit peu les mêmes choses chaque fois que nous faisons une émission avec vous, enfin avec l'association, mais on considère que c'est important de le dire et le redire. Vous parliez d'échec. L'échec, c'est très français. Et aux États-Unis, par exemple, avoir un échec, c'est presque recommandé sur le CV. Ça prouve que la personne a de l'énergie et est capable de repartir. Alors qu'en France, l'échec, c'est honteux.
Alors l'échec est honteux et ça vient de loin, hein. Ça vient du XVIIe siècle où souvent l'échec, l'entrepreneurial, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, c'était lié à de la fraude, à de la malversation, oui. à du vol, à des détournements d'argent, etc. Ce qui est plus du tout le cas aujourd'hui, enfin rarement le cas aujourd'hui, il y a quand même des dossiers comme ça, c'est clair, oui. Mais... Oui, il y a ce sentiment de qui arrive et qui fait qu'on a du mal. Aux États-Unis, on le voit bien, c'est plus qu'une ligne de plus sur le CV, c'est un gage de, il a déjà connu ça une fois, deux fois, trois fois, et donc il va savoir comment réagir, il va voir les signaux anticipés, les signaux avant-coureurs de on va à l'échec, etc. Donc c'est plutôt une force, effectivement. Chez nous, il faut que ça devienne une force, et notre idée, c'est vraiment de changer le regard sur l'échec. Je parlais avec Christine et je disais finalement, après beaucoup de réflexions sur tout ça, j'ai tendance à dire que le succès, ça n'est qu'une somme d'échecs qui ont mal tourné. Ce qui est une manière de retourner le regard sur l'échec, parce que justement on en fait autre chose, et que bien souvent, si on analyse la vie d'un chef d'entreprise, c'est tout le temps une succession d'échecs qu'on transforme constamment pour maintenir nos boîtes.
C'est ce que je disais tout à l'heure, il faut constamment jouer défensif.
Voilà, vous avez un mouvement social, il faut se battre, il faut trouver des solutions, vous avez fait une proposition commerciale, elle passe pas, il faut trouver une solution, vous avez un problème d'agrandissement, il faut trouver des... Donc vous êtes confronté comme ça à toute une série d'embûches, il faut trouver les solutions, il faut avancer, il faut aller dans le positif, et donc c'est des échecs qui tournent mal, on en fait des succès.
Plus les événements tels que la crise sanitaire, aujourd'hui la guerre en Ukraine, donc les problèmes d'énergie, enfin voilà, tout vient se mêler à des difficultés éventuellement ponctuelles. Alors Laurent, vous êtes depuis quelques mois, vous êtes le nouveau responsable de cette antenne du Val d'Oise. Vous avez succédé à Frédéric Anfray, dont vous étiez le bras droit. Et je le redis, je sais que vous allez honorer ce titre avec le même sérieux que de la façon dont vous aviez été bras droit de Frédéric Anfray. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur cette antenne du Val d'Oise après les succès des succès, oui, et en même temps, ça prouve qu'il y a peut-être en ce moment un grand nombre d'entrepreneurs en difficulté.
Alors, on voit bien qu'il y a du dépôt de bilan. J'étais récemment au tribunal de commerce. J'étais stupéfait du nombre de dépôts de bilan qu'il y a, dont une grande majorité, d'ailleurs, où les entrepreneurs se présentent pas, ce qui est quand même pas très sain. Mais oui, c'est pas par hasard qu'on accueille un peu plus d'entrepreneurs en ce moment. Donc, il y a un mouvement, on commence à le sentir sérieusement. J'ai envie de dire à tous les auditeurs qui nous écoutent, si vous connaissez un chef d'entreprise qui a des difficultés et qui va déposer, n'hésitez pas à lui parler de 60 000 rebonds. Parce que c'est peut-être la chose dont on souffre, nous, le plus, c'est que cet accompagnement n'est pas connu, ou est pas toujours forcément bien perçu, peut-être, on peut se poser la question. Et donc, mon message, c'est parlez-en autour de vous, parce que ça leur fait vraiment du bien. J'ai pas pu venir là avec un entrepreneur ou deux, mais ils auraient pu témoigner.
Une prochaine fois.
Ils auraient pu vraiment témoigner du bien que ça leur fait, de la manière dont ils rebondissent derrière, dont ils se remettent en selle. Et j'en veux pour preuve que je faisais un point avec Christine ce matin. On a plein d'entrepreneurs qui nous quittent déjà à peine, même pas un an, parce qu'ils ont retrouvé du travail. On parlait de... Enfin, je peux pas donner les noms parce que c'est assez confidentiel.
Non, ça reste confidentiel.
Mais voilà, une entrepreneuse qui avait arrêté son entreprise récemment, après avoir vendu ses bâtiments, elle a retrouvé un poste de comptable... Voilà, les gens rebondissent assez vite grâce à cet accompagnement parce qu'ils sont remis en forme, remis en confiance et on les aide à préciser leurs projets professionnels et à s'orienter.
Oui, je n'ai pas repris les chiffres aujourd'hui, mais il me semble que c'est au-delà de 80% de réussite quand vous aidez des entrepreneurs.
Oui,
qui retrouvent soit en tant qu'entrepreneur, soit en tant que salarié.
Oui, absolument. On est même plutôt proche sur le Val d'Oise de 90% et au niveau national, effectivement, de 80%. Mais c'est un gros travail qui est fait aussi par toutes les équipes de bénévoles. Ça, il faut le souligner, hein, les coachs et les parrains qui sont bénévoles font un travail de fou.
Oui.
Il faut le saluer, c'est extraordinaire, c'est du temps donné.
Bénévolement et sans compter.
Absolument.
Et je voudrais juste aussi ajouter que pour qu'on ait bien conscience des difficultés dans lesquelles se trouve un entrepreneur qui connaît malheureusement la liquidation, c'est qu'il a des emprunts, il est souvent caution personnellement, il ne touche pas les ACEDIC, donc beaucoup de difficultés pour s'en sortir, et c'est là où 60 000 rebonds est d'un recours précieux.
Oui, alors on parle souvent des 7D, il y a le déni, il y a souvent le divorce, le déménagement, les dettes, etc. Je ne vais pas tous les citer, mais c'est des situations qui sont parfois difficiles. On a des entrepreneurs qui sont parfois dans des campings ou qui couchent dans leur voiture. Ça, c'est une réalité concrète, ça fait mal au cœur, alors que ce sont des gens qui ont créé de l'emploi, qui se sont défoncés, qui souvent ont payé leurs salariés à la dernière seconde en se privant eux-mêmes de salaire pendant des mois, etc. Donc c'est vraiment des situations qui sont souvent dramatiques. Donc l'idée, c'est vraiment de les aider à rebondir. Et on les aide aussi avec une tribu d'experts auxquels ils ont accès, qui sont des juristes, des fiscalistes, des banquiers, etc., pour leur donner les conseils, pour se démener, parce que parfois, ils sont poursuivis aussi avec des emprunts, avec des cautions, et c'est particulièrement compliqué quand même.
C'est ça. 60 000 rebonds, c'est une structure très très bien huilée et qui arrive à répondre à toutes les demandes. Si des auditrices et auditeurs sont directement concernés, que faut-il faire, Laurent Klein ?
Il faut aller sur le site 60 000 rebonds. Et pour les gens de l'Île-de-France, prendre contact avec l'Île-de-France. Si c'est en Rhône-Alpes, c'est avec les gens de Rhône-Alpes. Il y a un mail, on écrit, on téléphone, et puis à partir de là, une fois qu'on a débrouillé le dossier est vu en comité d'accueil, de façon à orienter au bon endroit les bonnes personnes et trouver les bons coachs et les bons parrains pour les accompagner ensuite pendant 2 ans. Et c'est 100% gratuit. Hein. On leur demande rien.
Il y a juste une petite, une somme dérisoire d'adhésion, mais vraiment.
Qui n'est même pas obligatoire pour les entrepreneurs en bon. Elle est obligatoire pour les coachs et les parrains.
Ah oui.
Mais elle n'est pas du tout.
Pour les bénévoles.
Voilà, les bénévoles contribuent. C'est aussi ce qui permet de payer une assurance de responsabilité civile. Mais c'est les entrepreneurs, non, on ne leur demande rien.
Très bien. Et j'ajoute que vous disiez qu'on trouve dans la France entière, aussi dans les dom-toms, il y a 40 antennes aujourd'hui qui fonctionnent.
Jusqu'aux Antilles et à Kourou.
Merci Laurent pour toutes ces précisions et votre engagement, et puis ne changez rien à
merci,
votre façon
d'être. Si, on va changer les choses, on va essayer de faire plus. On est en train de négocier avec la CMA, on est en train de voir avec le bâtonnier aussi après créer des événements, c'est important, on va faire un lien aussi avec le réseau Entreprendre.
Oui, très bien.
C'est que vous connaissez bien. Jacqueline.
Oui.
Voilà, donc on essaye de développer ça et d'être présent un peu plus souvent partout.
Très bien, mais on va continuer de parler de 60 000 rebonds avec Christine Couteau. Mais juste avant, je vous propose de faire une pause avec un peu de musique et on se retrouve juste après. Vous êtes bien sur IDFM Radio, à l'économie en direct, ce matin spécial 60 000 rebonds et rencontre avec des chefs d'entreprise au féminin. Laurent Klein, cofondateur du consortium Nakano, responsable aujourd'hui de l'agence 60 000 rebonds du Val d'Oise. Christine Coutant, coach professionnelle, directrice du cabinet Arancy, accompagnatrice de l'association 60 000 rebonds. Jamila Ouzine, fondatrice et directrice générale ADT International Language Wire, spécialisée en traduction et interprétation. Tissam Tati, fondatrice et présidente directrice générale de Procariste, entreprise spécialisée dans la formation en logistique et transport. À présent, je me tourne vers vous, Christine Coutant. On va continuer de parler de 60 000 rebonds. Alors, Christine, j'ai vu que vous aviez en formation un diplôme de chimiste. Donc, on est très loin du coach.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce qui a provoqué ce changement de cap ?
On dit que dans une vie, il y a généralement un fil conducteur. Donc, le mien, ça a été finalement de prendre soin des autres. Et en chimie, j'ai un diplôme en affaires réglementaires. Et en affaires réglementaires, eh ben, on prend soin justement des consommateurs.
Très bien.
Voilà.
Donc vous étiez déjà un petit peu dans cette mouvance.
J'étais déjà dans cette mouvance. Et puis, suite à un arrêt professionnel, évidemment, pour avoir mes enfants, ce qui concerne beaucoup de femmes, et beaucoup de femmes entrepreneuses notamment, j'ai fait un virage de carrière. C'était il y a une dizaine d'années maintenant. Et j'ai évolué dans le monde de la formation et du coaching professionnel, puisque je voulais me rapprocher de l'humain.
Voilà. Très bien. Et donc là, vous avez passé plusieurs certificats, plusieurs diplômes pour être au top, je pense, de votre formation.
Tout à fait.
Et aujourd'hui, donc, ce qui vous amène avec nous sur ce plateau, c'est que vous avez rejoint l'association 60 000 rebonds en tant que coach, précisément, dont parlait Laurent. Donc, expliquez-nous ce choix.
Oui, alors c'est un choix qui date un petit peu, parce que ça fait au moins 5 ou 6 ans que j'y songeais déjà.
D'accord.
Puis j'ai connu un déménagement vers l'Irlande, qui m'a un peu coupé les ailes de ce point de vue-là. Et à mon retour en France, fin 2021, j'ai souhaité m'engager auprès de 60 000 rebonds. Et donc auprès de l'association et de l'antenne du Val d'Oise en particulier. Tout simplement parce que ça me tenait vraiment à cœur. Dans mon métier, j'accompagne essentiellement des entrepreneuses. Je l'ai fait à travers des incubateurs et des pépinières d'entreprises. Je continue à le faire auprès d'écoles d'ingénieurs. Et puis, dans le cadre du coaching professionnel, j'accompagne les dirigeants d'entreprise qui sont en activité. Et donc, il me paraissait tout à fait logique de terminer le parcours sans oublier ceux qui connaissent, malgré eux, bien souvent, des dépôts de bilan.
Votre cabinet à Rancy, où se trouve-t-il ?
Alors, il est basé à Paris.
D'accord.
Voilà, sur l'avenue des Champs-Élysées.
Ah, très bien. Une belle adresse. Alors, quel est le profil général des entrepreneurs que vous accompagnez ?
Alors, les entrepreneurs que j'accompagne, ben, déjà Laurent en a pas mal parlé, mais ce sont donc des entrepreneurs qui connaissent des dépôts de bilan, essentiellement. Ce sont des personnes qui ont déjà l'aspiration de poursuivre leur chemin professionnel, soit vers de l'entrepreneuriat, soit vers du salariat, et qui ont besoin de se poser. Parce que l'antenne 60 000 rebonds, c'est aussi un soutien moral, aussi et avant tout un soutien moral, et de repenser leur projet professionnel. Finalement, ils ont connu, entre guillemets, un échec, ils ont besoin de repartir sur des bases plus saines, de faire le bilan de leur vie professionnelle, de capitaliser aussi sur leur réussite, sur leurs difficultés, et donc je les accompagne de ce point de vue-là.
Je fais juste une parenthèse, mais nous avons dit en off que il y avait aussi un soutien psychologique à travers l'association APESA, dont nous parlons aussi régulièrement dans cette émission.
Oui, tout à fait, qui est la première porte, mais voilà, dans un domaine qui n'est pas, qui est un domaine thérapeutique,
qui n'est pas
de l'ordre du coaching
qui vous
professionnel.
Concerne pas.
Tout à fait.
Donc vous, quelle est votre mission de coach professionnel au sein de l'association 60 000 rebonds ?
Alors moi, j'interviens une fois effectivement que le dossier de l'entrepreneur a été validé par l'association et je suis conviée en présence du parrain également, puisque chaque entrepreneur bénéficie à la fois d'un coach et d'un parrain, à rencontrer l'entrepreneur, et j'interviens dans les premières étapes d'accompagnement de l'entrepreneur avec un certain nombre de séances de coaching. Il y a 7 séances de coaching d'une heure et demie qui sont prévues avec l'entrepreneur pour lui permettre justement de redéfinir son projet professionnel.
L'entrepreneur qui est venu de son plein gré chez 60 000 rebonds.
Tout à fait, c'est une démarche volontaire.
Et donc, quand il vous rencontre, ça se passe plutôt bien ?
Ça se passe plutôt bien. Il s'agit aussi d'expliquer un petit peu en quoi consiste notre démarche, aussi bien pour le parrain que pour le coach, de façon à ce que l'entrepreneur sache exactement ce vers quoi il va et ce dans quoi il s'engage. Il y a vraiment une notion d'engagement. Nous, en tant que coach, par exemple, on signe une charte d'engagement avec l'association, mais c'est également le cas des entrepreneurs, ce qui permet effectivement de créer ce partenariat, cette alliance qui est indispensable à leur rebond.
C'est ça, les entrepreneurs s'engagent à venir selon le rythme qui leur est demandé. Laurent, vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, pour les gens qui nous écoutent, je voulais préciser un petit point. On a dit qu'il y avait un coach et un entrepreneur. Le coach, il va accompagner pendant 7-8 séances l'entrepreneur, et le parrain va l'accompagner pendant 2 ans. Quelle est la différence entre le coach et le parrain? Ben, le coach, c'est un pro. C'est un pro de l'accompagnement et donc il fait son travail sur ces 7 séances qui est souvent préliminaire au travail avec le parrain. Mais pour visualiser mentalement assez fortement la différence entre les deux, je dirais que le coach travaille sur l'intérieur et le parrain travaille sur l'extérieur. D'accord. C'est-à-dire il va travailler sur les relations publiques, sur la présentation, sur l'accompagnement, sur le réseau. Alors que le coach va travailler l'intérieur, la remise en forme, la remise en confiance, la remise en bien-être. C'est globalement, c'est vraiment ça, les deux points de l'accompagnement.
Merci Laurent pour cette précision. Christine Coutant, est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre lorsqu'on accompagne un entrepreneur en rebond?
Oui, tout à fait. D'où l'importance aussi, peut-être pour certains, de passer par la plateforme APESA au préalable. Oui. Tout simplement parce qu'il y a souvent des situations justement de faiblesse. Alors, entre guillemets évidemment, parce que ce n'est pas dans le sens péjoratif du terme, mais il y a pour beaucoup une situation qui est très difficile à vivre. Comme le disait Laurent tout à l'heure, il y a des entrepreneurs qui se retrouvent dans des situations personnelles extrêmement complexe. Et donc, il s'agit de s'assurer qu'il y a un minima de la protection et de la sécurité qui sont assurés pour ces entrepreneurs, qu'ils ont notamment suffisamment d'énergie pour pouvoir mener à bien un coaching, parce que ça demande beaucoup d'énergie, ça demande de l'investissement. Oui, oui. Et pour eux, c'est un véritable engagement à travailler sur eux-mêmes. Donc, il y a une remise en question aussi que ça impose. Donc, il s'agit vraiment pour nous de nous assurer d'abord que les conditions autour de cet entrepreneur sont requises pour pouvoir l'accompagner au mieux.
Oui, établir un vrai climat de confiance pour qu'il se sente bien lorsqu'il vous rencontre.
Oui, tout à fait. Et puis, nous assurer aussi, à l'écoute de cette personne, que globalement, il est susceptible de tenir le parcours. Voilà. Et puis, éventuellement, d'alerter si ce n'est pas le cas.
Bien sûr. Vous avez des exemples de singularité dans des accompagnements réalisés?
Oui, avec grand plaisir. J'ai eu la possibilité d'accompagner des entrepreneurs en marchant.
Très bien.
Voilà, donc en tout cas c'est une approche qui est très appréciée puisqu'il y a vraiment cette idée de mettre en dynamique. Et en règle générale, on n'est pas entrepreneur pour rien, c'est qu'en général on a quand même une forme, une dynamique. Pour eux souvent ce qui se passe c'est qu'effectivement au dépôt de bilan de l'entreprise tout s'arrête, ce que disait Laurent. Finalement ils sont un peu laissés de côté. Et donc les mettre en marchant, les accompagner en marchant, c'est leur faire associer l'évolution de l'esprit et la marche de l'esprit avec la marche physique.
Corps, le corps et l'esprit.
Oui, oui, tout à fait.
Ah oui, c'est une bonne. C'est vous qui avez impulsé cette méthode?
Alors pas spécialement. C'est une méthode qui est utilisée par certains dans mon domaine professionnel. En tout cas, j'ai beaucoup de plaisir moi à l'utiliser et j'utilise aussi beaucoup les éléments parce qu'on va souvent dans le Val d'Oise, on est quand même bien pourvu dans des espaces verts.
Oui.
Et j'utilise tous les éléments à ma disposition, et notamment quand il y a des bifurcations de chemin, c'est l'occasion très fréquemment d'utiliser les images.
Oui. Très bien,
voilà.
Oui, très très bien.
Oui, pardon, j'ajouterais Laurent. Aussi la vertu de la marche.
Oui.
C'est que bizarrement, et je ne saurais pas l'expliquer, parce que c'est pas mon domaine, mais ça lève des verrous psychologiques. C'est un truc incroyable. On marche, on est tous les deux dans la même direction, et tout d'un coup, la parole se délie. Alors que si on avait été en face-face dans un bureau ou un espace fermé, la parole n'aurait pas existé.
Ne serait-ce que le fait de marcher, ça développe des hormones qui font que peut-être on se lâche plus facilement.
Ouais. Peut-être.
Christine Coutant, donc coach professionnelle, vous nous avez dit les raisons qui vous ont poussé à rejoindre 60 000 rebonds. Quel est le processus d'adhésion pour en tant que coach professionnel pour rejoindre l'association?
Oui, alors déjà il y a la demande qui est formulée auprès de l'antenne.
Oui.
Voilà. Ensuite il y a.
Donc c'est vous qui demandez, c'est pas l'association qui vient vous chercher?
Non, non, non. Oui. En tout cas pour ma part c'était une démarche personnelle. Il y en a certainement dans le cadre desquels ça se passe différemment. Pour ma part c'était une volonté. Donc j'ai fait cette démarche d'engagement. J'ai déposé un dossier. Ce dossier a également été étudié à l'image de ce que l'antenne peut faire pour les entrepreneurs. Et après un entretien qui se passe avec un parrain référent et un coach référent, donc ça se passe un peu dans les conditions qu'on propose à nos entrepreneurs, la sélection est effectuée et on valide ou pas notre adhésion en signant une charte d'engagement et en payant une somme vraiment minime d'adhésion à l'association.
Alors, rappelez-nous, vous l'avez peut-être dit, mais j'ai peut-être fait une micro-sieste à ce moment-là. Vous êtes dans l'association depuis quand?
Je suis dans l'association depuis un an.
Un an,
voilà.
C'est bien. Okay. Et aucun regret?
Aucun regret.
Au contraire.
Non, absolument aucun regret. Et bon, la perspective de d'accompagner de nouveaux entrepreneurs, qui vraiment me réjouit de les voir rebondir. Et évidemment, comme disait Laurent, hein, c'est à la fois pour nous une occasion de nous réjouir, de pouvoir les accompagner au mieux. Et puis en même temps, le constat qu'effectivement, il y a quand même pas mal de dépôts de bilan.
Bien sûr, bien sûr. Alors, je sais que vous vouliez nous dire un mot sur ce métier de coach, hein, qui est le terme est souvent galvaudé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on met un peu ça à toutes les sauces. Comment pouvez-vous lui rendre une certaine noblesse,
hein? Alors ça, c'est un travail permanent, un travail, l'action effectivement que j'ai au sein de l'association 60 000 rebonds. C'est aussi l'occasion de montrer que c'est une vraie démarche professionnelle, c'est un vrai métier.
C'est un vrai métier.
Et il est reconnu comme tel au sein de l'association. Et puis, au-delà de ça, eh bien, de faire beaucoup de pédagogie autour de ce métier, qui est un métier qui nécessite des diplômes. Donc ça, c'est très important, parce que beaucoup se disent coach professionnel sans avoir aucun diplôme. Voilà. Il y a également un titre professionnel qui a été validé par France Compétences. On connaît quelques bouleversements ces derniers temps, parce que ce titre a été suspendu pour le moment. Ah. On a beaucoup de professionnels qui se lancent pour obtenir ce titre, faire valoir ce métier, avec quelquefois quelques écueils sur le chemin. On a la nécessité également, nous, de maintenir un niveau de formation continu, de nous poser nous-mêmes des questions que l'on peut poser aux gens que nous accompagnons. Donc il y a une vraie démarche autour de ça pour professionnaliser. C'est un métier jeune, il a une trentaine d'années seulement, donc c'est très récent. Et voilà, donc moi, mon rôle à moi, c'est... Alors je vais pas aller jusqu'à de l'évangélisation, mais c'est de la pédagogie autour
combat,
de ce métier.
Un combat, en tout cas, pour rendre officiel un vrai métier qui justement, est, comme vous l'avez dit, enfin comme on l'a dit, peut-être galvaudé.
Oui, tout à fait. Et souvent confondu avec la thérapie.
Oui.
Ça n'en est pas.
Ça n'a rien à voir.
Non.
Ça n'a rien à voir. Laurent, une minute.
30 secondes, juste pour dire que, évidemment, si vous
êtes...
Je suis
obligée parce qu'il est très bavard, Laurent.
Non, c'est pour dire aux gens que s'il y a des gens qui sont coachs et qui ont envie de venir chez 60 000 rebonds, une petite précision. D'abord, ils sont toujours les bienvenus, mais il faut savoir que nous ne prenons des coachs que s'ils ont une certaine
expérience.
Une expérience, voilà. C'est-à-dire qu'on ne prend pas des coachs débutants, parce que c'est pas facile d'accompagner ces entrepreneurs. Donc, on prend des coachs avec expérience. Oui, voilà, une expérience marquée, c'est important. Mais on recrute.
Un vrai recul, très bien. Mais écoutez, le message est passé. Merci Christine pour votre intervention.
Merci beaucoup, Jacqueline.
Je ne doute pas, vous parlez posément et tout, je ne doute pas que votre action auprès des entrepreneurs soit très efficace.
Merci à vous.
Et donc, un accompagnement précieux chez 60 000 rebonds, sans lequel cette structure n'aurait pas toute cette aura et ce succès.
Clairement indispensable, nos coachs. Et Christine, je le souligne, fait un travail incroyable. Et je reconnais tellement la qualité du travail que j'ai envoyé à Christine des entrepreneurs en dehors de 60 000 rebonds, parce qu'elle les accompagne d'une manière exceptionnelle. Donc je voulais le dire ici. C'est un bonheur de l'avoir accompagné, ces entrepreneurs, et les remettre en forme et les remettre sur pied. C'est... chapeau.
Merci. Et donc, Laurent. Christine Coutan, si on veut vous contacter via 60 000 rebonds, Laurent nous a dit comment, mais vous, si on veut vous contacter en dehors de 60 000 rebonds, que faut-il faire?
Eh bien, mon adresse est très facile à trouver sur les réseaux, différents réseaux sociaux et sur les moteurs de recherche. Donc, christine.coutan@arancy.com.
Très bien, mais écoutez, des coordonnées qui se retrouveront sur le podcast.
Merci beaucoup.
Merci à tous les deux, parce que je sais que vous devez nous quitter, donc vous pourrez pas écouter nos deux autres chefs d'entreprise, Jamila et Petit Sam, c'est bien dommage.
C'est un grand regret.
Vous écouterez le podcast.
Ça, c'est certain.
C'est sûr.
Et on le relaiera d'ailleurs.
Merci beaucoup, merci. Donc on fait une nouvelle pause avant de donner la parole à mes deux autres invités. À tout de suite, merci à vous.
Merci.
Sous la glace.
Jacqueline Voraz sur IDFM Radio, c'est l'économie en direct. Et ce matin, 60 000 rebonds et des femmes chefs d'entreprise au micro de l'émission. Avec à mes côtés, alors ils ne sont plus à mes côtés parce qu'ils ont dû partir, Laurent Klein, cofondateur du consortium Nakano, responsable aujourd'hui de l'agence 60 000 rebonds du Val d'Oise. Et Christine Coutan, coach professionnelle, directrice du cabinet Arancy, accompagnatrice de l'association 60 000 rebonds. Ils ont dû nous quitter pour un autre rendez-vous. Mais toujours avec moi, Jamila Ouzine, directrice générale ADT International, Language Wire, spécialisée en traduction et interprétation. Tissam Tati, fondatrice et présidente directrice générale de Procarist, une entreprise spécialisée dans la formation logistique et le transport. Jamila Ouzine, comme Ptissam, j'avais eu aussi le plaisir de vous accueillir en tant qu'adhérente à l'époque de l'association Femmes Chefs d'Entreprise, dont vous faites toujours partie, hein, je crois.
Oui, je confirme.
Et je suis ravie de ce nouveau rendez-vous avec nous ce matin.
Le plaisir est partagé.
Alors, votre parcours académique, Jamila, fait valoir un DEA droit des contrats, option droit des affaires. On est loin d'une entreprise de traduction.
Alors, c'est vrai que ma formation première, c'est le droit. Moi, oui. Je suis passionnée par le droit et la finance. Et c'est vrai que c'est un parcours que je poursuis encore aujourd'hui, hein, oui. Parce qu'on en a besoin en entreprise. Et j'ai fait toutes mes études à Lille. Et c'est vrai que... c'est un parcours passionnant. C'est vrai que quand on aime ce qu'on fait, je pense que c'est le plus important.
C'est jamais terminé.
Exactement,
surtout.
Exactement. Ouais.
Et donc, vous avez aujourd'hui, vous êtes dans une entreprise de traduction. Vous dirigez une entreprise de traduction. Comment et pourquoi avoir rejoint ce secteur?
Alors, ce secteur de la traduction et l'interprétation est un secteur assez particulier, je le reconnais. Et je suis arrivée chez ADT en 2007. Donc, j'ai été recrutée par Cédric Loison, hein, qui est le fondateur et président de la société.
Oui, j'avais dit une bêtise tout à l'heure.
Aucun problème. Et j'avais été recrutée parce que le service n'existait pas, le service juridique justement n'existait pas. Et suite à la création de ce service, j'avais été recrutée à l'époque. Donc c'est vrai qu'il y avait un gros chantier puisque la société a beaucoup évolué de par la croissance externe. Donc oui. C'est vrai qu'on avait beaucoup de filiales. Et c'est vrai que c'était un super challenge, un exercice très très excitant puisque le défi c'était justement de simplifier un peu le schéma juridique également. Donc vraiment c'est une belle expérience.
Alors ce métier de traducteur et d'interprète demande des compétences assez pointues et puis une gestion très cadrée des collaborateurs, j'imagine.
Alors la société est localisée à Soisy-sous-Montmorency, on a une équipe de chargés de projet, mais tous nos traducteurs sont en freelance, donc on travaille avec des milliers de traducteurs qui sont chez eux. La règle numéro 1 en traduction et interprétation, c'est 1 de traduire vers sa langue maternelle. Donc il faut savoir qu'un traducteur qui traduit du français vers l'anglais ne peut pas traduire de l'anglais vers le français. Et règle numéro 2, il traduit dans son domaine. Donc quelqu'un qui est spécialisé dans le juridique, on ne lui confie pas un projet dans l'aéronautique ou dans le cosmétique par exemple. Donc ça c'est important. Ce qui fait
un point que vous avez mis
c'est même la règle. C'est la règle d'or en droit, dans la traduction, parce que vous pouvez pas. Le vocabulaire est assez technique.
Quelle que soit l'entreprise. Elle doit respecter
cette règle, exactement.
D'accord.
Parce que c'est vrai
c'est
vrai qu'on ne le dit jamais assez, mais il faut savoir que ça c'est hyper important que chaque traducteur traduit dans sa langue maternelle et dans son domaine, parce que le vocabulaire est assez technique.
Bien sûr.
Et je pense que ça c'est un point d'honneur.
On s'en rend compte d'ailleurs quand on lit certains modes d'emploi.
Ah oui.
Qui ont été traduits peut-être même par des robots. Enfin, on ne sait pas où c'est pas toujours évident. Hein.
Alors chez ADT, on parlera
de
la.
Je parle pas de ADT, mais je parle du matériel technique. Des fois, on a des modes d'emploi qui sont
assez étranges,
impossibles à lire.
Ah oui, c'est sûr que nous, on s'en amuse quand on lit aujourd'hui parfois des non-sens. Hein,
oui,
ou alors
oui.
Quand c'est traduit littéralement, par exemple, c'est assez amusant, je reconnais.
Alors, quel type de traduction faites-vous? Parce que c'est très vaste, la traduction.
Alors, la force ADT, donc je rappelle, la société a été créée en 93, on fête nos 30 ans cette année.
Bravo.
On traduit dans toutes les langues du monde et dans tous les domaines. Et c'est notre force aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, notre force, c'est quand même notre banque de données de traducteurs. On travaille vraiment avec tous les traducteurs qui sont sur les 5 continents, j'ai envie de dire. Et notre force, c'est vraiment, on est capable aujourd'hui de répondre à toutes les demande de nos clients et de satisfaire à leurs exigences.
Donc, ce sont des notices, des livres, des comptes rendus.
Alors, ça, vraiment, nos clients sont très très variés. Ça va de la TPE, PME aux sociétés cotées en bourse, celles non cotées en bourse. On travaille avec des clients à l'international. On travaille quasiment avec tous les ministères publics, les institutions publiques. Voilà, nos clients sont très variés. Dès lors que ça touche, aux langues.
Oui.
Vous pouvez accompagner par exemple une société pour une conférence téléphonique, pour les âgés, aujourd'hui on est le 1er juin, donc tous les âgés vont commencer. Et vous avez beaucoup de sociétés dont les âgés se passent uniquement en anglais, donc on envoie nos interprètes, on peut envoyer nos interprètes dans les chaînes de télé, on fait du sous-titrage, vraiment ça, tout ce qui est attrait aux langues, c'est très très vague.
Vous êtes en capacité de répondre
à toutes les demandes, dans toutes les langues, exactement. Exactement. Ça, c'est notre force aujourd'hui.
Même l'hindi, par exemple.
Oui, bien sûr. Bien sûr, absolument. Bien. Hein.
Le digital a dû modifier le paysage de la profession.
Alors, le digital a modifié un peu le paysage, comme vous venez de souligner, mais on n'est pas encore menacé, par ce qu'on appelle, nous, la machine translation. C'est la robotisation, ChatGPT, DeepL, enfin, je ne vais pas faire de la publicité pour tout ce qui est robotisation. Mais voyez-vous, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que pour la compréhension, bon nombre de personnes vont certainement faire appel à cette robotisation, mais dès lors qu'il y a un engagement, par exemple, quand vous avez un contrat juridique, par exemple, à faire traduire dans une langue, croyez-moi, vous n'avez pas envie de faire confiance à la machine, parce que vous n'avez pas envie de signer n'importe quoi. Quand vous déposez un brevet, vous faites pas confiance encore à la robotisation, donc vous faites confiance à l'homme, à l'être humain, et pour cela, nous, on est quand même bien placés. Et encore aujourd'hui, notre qualité, notre principal objectif, c'est de confier tous ces projets de traduction à des traducteurs, à des êtres humains.
Exactement. Des vrais professionnels.
Oui, oui. Oui.
Ça, c'est le côté peut-être un petit peu négatif du digital. Au niveau du positif, c'est que vous disiez que vous avez un nombre incroyable de collaborateurs qui maintenant sont, j'imagine, dans le monde entier.
Ah ben c'est les 5 continents, c'est le cas. Voilà, on reçoit aujourd'hui des centaines de CV de traducteurs de différents continents. On répond à la norme ISO 17100 qui est spécifique à la traduction et à l'interprétation. Donc forcément le CV est étudié, analysé, on teste nos traducteurs, ils sont notés et c'est après tout un process que le traducteur peut collaborer avec la société, oui.
Bien sûr, bien sûr. Parce que j'imagine que ça doit être un métier très concurrencé, avec notamment des traducteurs non professionnels, des casseurs de prix. Vous le disiez, n'importe qui, au fond, peut s'improviser traducteur.
Non. N'importe quel traducteur vous dira que il suffit de lire, quelqu'un qui maîtrise bien les langues,
voit tout de suite.
Oui, bien sûr, la qualité n'est pas la même, et heureusement.
Bien sûr.
Quand c'est traduit, quand vous glissez un texte, par exemple, sur DeepL ou Google Translate ou autre, on voit tout de suite la qualité. Alors, c'est vrai que l'anglais, je reconnais que l'anglais, il est plus ou moins bien traduit aujourd'hui. Mais dès lors que on doit signer, on doit s'engager, croyez-moi, on oublie vite la robotisation.
Oui, 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 oui. Alors aujourd'hui, Jamila Ouzine, vous nous avez parlé de croissance externe.
Oui.
Et c'est un peu votre objectif aujourd'hui.
C'est notre dada aujourd'hui. Oui, oui, parce qu'on a toujours fait évoluer le groupe de par la croissance externe. On a racheté de nombreuses sociétés de traduction qu'on a fait évoluer. On rachète aussi des portefeuilles clients également. également. Et là, l'actualité, justement, je voulais en parler ce matin, l'actualité d'ADT, c'est qu'on a été approché par un groupe danois qui s'appelle Language Warrior, qui sont
beaucoup mieux que moi,
qui sont localisés à Copenhague, au Danemark. Et notre force aujourd'hui, c'est qu'on est passé d'une vingtaine de salariés à plus de 400 collaborateurs. On travaille dans plus de 500 combinaisons de langues. On travaille avec plus de 3000 clients. On traduit plus de 450 millions de mots chaque année. On travaille avec plus de 7000 experts en langue. Donc voilà, nos services, c'est 24 heures sur 24, 5 jours sur 7 dans 24 fuseaux horaires. Donc voilà, tout cela nous aide justement à répondre de plus en plus aux exigences de nos clients et surtout à les satisfaire.
Bien sûr, bien sûr. Et sans que ça change rien pour vous, en fait.
Alors là, l'avantage pour nous et pourquoi on a accepté d'être approché par ce groupe, c'est que ce groupe, enfin Language Warrior, a décidé de s'implanter en France.
Oui.
Donc on a carte blanche.
Vous
rien.
Avez besoin d'une base.
Alors ils avaient déjà racheté une petite société il y a 2 ans, une petite société qui est localisée à Courbevoie, mais elle n'est pas de la même taille qu'ADT. Et aujourd'hui, c'est nous qui avons, qui reprenons, on va s'appeler Language Warrior France. Et on a carte blanche. Rien ne change pour nos clients. On continue,
oui, transparent.
Au contraire, on va mettre à leur disposition de nombreux outils qui va leur simplifier la vie et les aider justement en nous confier de plus en plus de contenu multilingue via une plateforme très puissante qui est basée justement sur l'intelligence artificielle et qui a été conçue justement pour simplifier les choses.
Donc, de beaux jours à venir pour ADT International.
Oui, oui, exactement.
Bravo. Jamilisa Ouzine, je voudrais que vous nous parliez aussi un petit peu de votre mandat à la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise.
Alors, j'ai été élue, c'est déjà ma deuxième année, c'est vrai que le temps passe. La Chambre de commerce, qu'il faut rappeler, qui est très présente dans bon nombre d'entreprises. Et moi, je suis toujours étonnée d'entendre certains chefs d'entreprise qui ne connaissent pas, en fait, la Chambre de commerce et d'industrie, ça même pas où est-ce qu'elle est localisée. Et ça, c'est vrai que c'est toujours étonnant, parce que moi, j'ai bien vu pendant les élections, on connaît plus ou moins de nom la chambre de commerce, mais bon nombre de chefs d'entreprise ne connaissent pas le rôle de la chambre, ne s'intéressent pas.
Alors que du fait de leur numéro sirène, ils sont
exactement, forcément, oui, ils ont affaire à eux. Et ça, c'est vrai que c'est un peu regrettable. Donc, c'est vrai que notre démarche aussi, c'est d'être présent sur tout le territoire, en tout cas du Val d'Oise, de faire parler de la Chambre de commerce, d'encourager tous les chefs d'entreprise à solliciter les services de la Chambre de commerce et de pas hésiter. Ce que je dis souvent, c'est que le chambre d'entreprise ne doit pas travailler seul.
Parce que c'est vrai que... C'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Exactement, c'est ce qu'on disait exactement avec Laurent Klein. Et il est quand même souhaitable de rappeler à chaque chef d'entreprise qu'il n'est pas seul et qui peut être accompagné, qui peut être aidé dans tous ses projets, et que ça ne doit pas être un frein justement pour lui pour avancer dans tous les projets, parce que bon nombre d'entreprises
se mettent des limites.
Exactement. Et c'est ce que je dis même dans le cadre des traductions, parce que c'est vrai qu'on en parle souvent. Moi, ça m'étonne toujours aujourd'hui de voir des chefs d'entreprise freiner leur projet parce qu'ils ne maîtrisent pas une langue. Ne serait-ce qu'aller chez nos pays voisins, l'Italie, l'Espagne, parce qu'ils ne maîtrisent pas la langue, alors que justement,
on est là
pour les accompagner, même ne serait-ce qu'une conversation téléphonique, un email, leur site web,
Oui.
Et je comprends pas qu'en 2023, l'export
n'est pas autant de succès.
Exactement,
Dans les petites entreprises.
Parce que la langue est effectivement un frein.
Oui. Et donc je vous pose la même question qu'à Laurent et Christine pour si on a besoin de ADT International, que faut-il faire?
Alors pour toutes vos demandes, adressez-vous soit vous pouvez nous appeler directement au 01 39 34 70 70 ou écrire à contact@ADT comme agence de traduction d'ADF-international.com.
Très bien. Écoutez, des coordonnées qui se retrouveront également sur
le site d'ADT également. Merci, Jacqueline.
Merci, Jamila Ouzine, pour ce dynamisme et puis cette énergie à promouvoir, comme vous le faites, votre entreprise.
Merci.
On vous souhaite que cette... ce partenariat avec se passe bien.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Encore une pause avant d'enchaîner avec Tissam Tati, mon invitée suivante. À tout de suite.
Tu as tombé du ciel, moi qui voyais le mal partout. Si l'amour est encore sur terre, rien efface les douleurs d'hier. Sans toi je n'aurais jamais pleuré autant de joie pour personne. Le canon qui ici sous pilotis, refuge de mes amours engloutis. Mon cœur dépose à la dérive, les marées ne me font revenir. Je reste avec les étoiles de mer, les oiseaux des terres amères et mon cœur qui se perd. Je suis tombé pour elle, je n'ai Dieu que pour elle. Ma maison m'a tout éveillé quand mes amours prennent l'eau. Lido, sois sûr. Au-dessus des marais, j'aime de l'amour à perpétuité. Pour pile à sur mer, arc inféré, la pointe chevaux de mer pété. Arcachon piqué, effraie les liens, les glaces sur la jetée. Pourrait bien me manquer. Je suis tombé pour elle, oh, je n'ai Dieu que pour elle. Ma maison m'a tout éveillé quand mes amours prennent l'eau. L'île, sois sûr.
C'est ma tour de Babel, mon phare, ma citadelle, mon cinéma, mon repère. Mon oasis et mes amours à la poubelle. Et quitte à perdre pied,
ma maison, ma tour Eiffel, quand mes amours prennent l'eau. Je n'ai Dieu que pour elle. Ma maison m'a tout éveillé quand mes amours prennent l'eau. Mille oiseaux, mais je suis tombé pour elle. Je n'ai Dieu que pour elle. L'île aux oiseaux.
Oh, je ne tiens que pour elle.
L'île aux oiseaux.
Qui
veut
maison, nature est belle.
L'île aux oiseaux.
C'est l'économie en direct et dernière ligne droite ce matin chez IDFM Radio avec, j'ai reçu tout à l'heure Laurent Klein et Christine Coutant de l'association 60 000 rebonds. Nous venons d'entendre Jamila Ouzine de la société ADT International et à présent focus sur Tissam Tati. présidente directrice générale de Procariste. Tissam, j'aimerais bien que vous nous racontiez la genèse de votre entreprise, parce que je sais que c'est une belle histoire. Je vous en prie.
Alors, Procariste, c'est créé en 2003 avec moi-même et Monsieur Tati.
Oui.
Et donc c'est une entreprise familiale. On a démarré à deux, donc on occupait tous les postes, on faisait un petit peu tout. Donc petit à petit, on a commencé par faire des formations. Au départ, c'était que des formations chariot pour la formation de conduite de chariot automoteur et pour la validation des CACES. Après, petit à petit, on a commencé à élargir un petit peu notre catalogue en proposant des formations toujours dans la conduite de chariot. Donc on a rajouté la nacelle, après l'engin de chantier. On fait des formations aussi pour le pont roulant. Et là, en 2020, on a rajouté les gerbeurs. Mais à côté de ça, on a développé aussi des formations en prévention. Prévention comme des formations SST, sauveteurs secouristes du travail. Des formations d'habilitation électrique pour des non-électriciens et on fait de la basse tension. C'est une formation qui peut toucher un petit peu tout le monde. C'est pas forcément que des personnes qui sont
dans le transport ou la logistique. Même ailleurs.
Par exemple, ouais. L'habilitation électrique, c'est pour des agents d'entretien, des agents de maintenance. Enfin, nos clients, ils sont très divers et variés.
Ouais.
On fait aussi des formations de travail en hauteur. Tout ce qui était utilisation d'échafaudage, échelle, escabeau. En fait, à partir du moment où on n'est plus au sol, donc on monte en hauteur, donc on a besoin d'une formation travail en hauteur. On propose aussi la formation qui est devenue obligatoire pour sur les chantiers, c'est la EPR, autorisation d'intervention à proximité des réseaux. Donc c'est une formation qui est devenue obligatoire pour justement limiter les dégâts, les risques sur un chantier et savoir en fait lire les plans et intervenir correctement. Et petit à petit, en fait, on a commencé à développer des formations longues et notamment tout ce qui est titre professionnel. Donc c'est des formations certifiantes. On propose des formations titre professionnel agent magasinier, préparateur de commandes, cariste d'entrepôt et aussi une formation gestion informatisée des stocks. Et là, dernièrement, notre dernière formation développée, c'est une formation en alternance. Donc, c'est une formation diplômante et on propose un CAP en logistique, opérateur logistique, qui va commencer à partir de septembre de cette année pour la rentrée prochaine.
Donc, un champ très large de formation, mais... Au départ, qu'est-ce qui vous a dirigé dans ce domaine, dans ce secteur ?
Alors, on a avec mon mari, on a eu un parcours assez atypique,
oui.
Parce que aucun d'entre nous n'est issu de la logistique.
Oui, oui.
Alors, pour la petite histoire, monsieur a une formation d'ingénieur en électrotechnique, et moi-même, je suis biologiste. Donc j'ai un master 1 en biologie, donc rien à voir. Donc alors après on a suivi des formations.
Comme Christine Coutan qui était chimiste. Et...
Ouais. Exact. Donc du coup on s'est retrouvé dans ce domaine-là. Alors au départ c'était par hasard, c'était l'idée de monsieur. Donc arrivé en France.
Il savait qu'il y avait un besoin dans ce domaine.
Arrivé en France, il s'est retrouvé à travailler. En fait, il cherchait du travail un petit peu comme tout le monde. Donc, il s'est retrouvé comme formateur. Vu ses compétences, ses qualités, tout ça, ses connaissances. Donc, il s'est retrouvé autant que formateur. Et après, à deux, on a décidé de monter une entreprise. Donc, quand on a fait une étude de marché, on a trouvé que, sur le Val d'Oise, il n'y a pas d'organisme de formation physique installé. Donc, on a décidé d'ouvrir notre centre au Val d'Oise, à Saint-Ouen-l'Aumône. Donc le premier centre a été ouvert au Vergalon. Après, on a déménagé au Béthune et on a commencé à développer nos formations. Et donc petit à petit, donc on a suivi des formations.
Vous avez été de mieux en mieux connu, reconnu.
Exactement. Alors on travaille sur le Val d'Oise. Tous nos clients ils sont sur le Val d'Oise et pas que, puisque on travaille aussi au niveau national. On a nos formateurs qui se déplacent un petit peu sur l'Île-de-France et aussi en France, partout en France, en fonction de situation des clients et des sites des clients.
Oui, parce que ça doit Pardon, ça doit demander une certaine surface pour, vous avez besoin d'avoir du matériel pour ces formations?
Tout à fait. Alors, on a un site à Saint-Ouen-l'Aumône, qui fait 1500 m2, sur lequel on propose tout ce qui est formation de conduite d'engin. Donc, c'est des formations courtes.
Oui.
Et, depuis 2020, on a ouvert un site à Taverny, qui est sur 3700 m2. On propose des formations de conduite d'engin et aussi des formations langue en logistique. Donc, dans nos entrepôts, en fait, on a des ateliers en mise en situation. Donc, on a un magasin pédagogique, on a un entrepôt pédagogique, on a des ateliers pour tout ce qui est conduite d'engin, des simulations. Donc, le principe, c'est de former les personnes comme s'ils sont en entreprise, en situation professionnelle. Ouais. L'objectif, c'est de rendre les stagiaires employables et opérationnels dès la prise de poste.
Et donc aujourd'hui, l'entreprise Procariste, c'est combien de collaborateurs?
Alors, au jour d'aujourd'hui, il y a 22 collaborateurs.
Oui.
Donc, entre 2020 et aujourd'hui, en fait, on a triplé notre effectif parce qu'on était moins de 10 jusqu'à 2020. Et là, on est en plein développement. Voilà,
grâce
exactement.
Aux nouvelles formations dont vous nous avez parlé.
Tout à fait. Et aussi, là, on est encore en cours de recrutement actuellement pour les formations de CAP.
Oui.
Où on a besoin encore de formateurs. Donc, on est toujours à la recherche de formateurs pour en logistique et aussi pour la conduite d'engin.
Et vos clients, ce sont les organismes de formation ou ce sont les entreprises directement?
Alors, on travaille avec des entreprises directement.
Oui.
Donc, on travaille avec des entreprises de tout type d'entreprises. Donc, il y a la petite TPE à la multinationale. Les entreprises, elles sont basées un petit peu partout. C'est différents types d'activités. Donc, c'est des entreprises de logistique, des industries, de services. On travaille avec des agences d'intérim, enfin, l'événementiel, enfin... On travaille avec des cinémas, par exemple, on a des cinémas qui forment. À partir du moment où il y a une zone de stockage, il y a forcément un chariot, il y a forcément besoin d'une
de former un chariste pour déplacer ou
tout à fait.
Ouais,
alors, on fait pas que les charistes, on fait les charistes et on fait tout ce qui est préparation de commandes et magasinage. Donc c'est
très
pas.
Oui, c'est pas. Non, je veux pas limiter. C'est le fait que vous parliez de chariot, donc qui me fait penser à ça.
Après aussi, on travaille avec les mairies, on travaille avec les institutionnels, Pôle emploi, conseil général, régional, mission locale.
Nos limites.
Voilà. Exact. Donc c'est très divers et varié.
Bravo pour cette belle réussite. Vous devez être content aujourd'hui. C'est certainement beaucoup d'heures de travail, mais voilà, c'est une belle réussite.
Oui, c'est beaucoup d'heures de travail. Donc cette année, en fait, nos 20 ans.
Oui.
Donc là. Donc on est fiers en fait de notre entreprise et c'est aussi je tiens à remercier aussi notre équipe qui a œuvré pour justement nous accompagner pour en arriver là et qui ont participé justement au développement de l'entreprise. On remercie aussi nos clients qui nous font confiance depuis des années parce que nos clients c'est des clients avec qui on a commencé à travailler depuis 2003 avec lesquels on continue toujours à travailler.
Ouais.
Donc ça fait plaisir. Donc c'est que la qualité de notre travail correspond et on est reconnu et on essaie toujours de faire mieux et encore mieux. Et si on peut encore faire mieux, ça serait avec grand plaisir.
Bah écoutez, je crois aussi que ça, c'est la preuve que vous-même, avec votre mari, avez su développer toutes les qualités nécessaires pour en arriver là. Hein. C'est, il n'y a pas de hasard, forcément.
Oui, je pense.
Alors... Vous avez des perspectives d'évolution encore dans la société?
Oui. Alors au jour d'aujourd'hui, comme j'ai précisé, on a développé la formation CAP opérateur logistique et à l'avenir, donc on va vers un bac pro logistique et un BTS logistique et au-delà.
Donc, très bien. Donc de plus en plus de formations pointues.
Exactement. C'est des formations diplômantes, donc c'est des diplômes académiques qui sont reconnus. Comme ça, ça permet de valoriser aussi le métier qui est en pleine
évolution
avec tout ce qui est plateforme, e-commerce et tout ça qu'on entend au jour d'aujourd'hui. Donc, il n'y a pas le choix que d'être performant.
Que d'avancer. Je vous pose la même question qu'à Jamila. C'est un métier très concurrentiel, votre activité?
Alors, j'ai envie de dire oui et non.
Oui.
Effectivement, oui, il y a d'autres organismes de formation. Alors, notre force, c'est que on propose plusieurs types de formations. Donc, notre catalogue, il est assez large. Donc, on arrive un petit peu à couvrir un petit peu la partie logistique. Et on est sur des formations très pointues. Donc, ce qu'il faut savoir, que l'ensemble de nos formations, c'est des formations où on doit demander un agrément, on doit être certifié.
Oui.
Donc, et c'est des démarches qui sont assez lourdes, à gérer au quotidien. Et c'est pas évident pour certains.
Oui, tout le monde n'a pas l'expérience que vous avez aujourd'hui pour ces démarches.
Exact. Oui. Donc du coup, on est bien installé.
Ça vous garantit une certaine je trouve pas le mot, mais vous êtes à l'abri un petit peu par rapport à cette concurrence.
Oui, tout à fait. Ouais. Aussi, en fait, on travaille d'une manière humaine, donc on est à...
C'est important.
Nos clients, c'est pas des numéros, donc on essaye de les accompagner au mieux, de les conseiller. L'objectif, c'est pas juste de faire la formation pour faire la formation, c'est de faire la formation et que ça soit...
Que les clients soient contents à l'arrivée.
Exactement.
On le ressent bien dans ce que vous dites. Alors, petit Sam, vous nous avez parlé de cette nouvelle formation, la Bac Pro, les 20 ans de Procariste, et puis vous avez des journées portes ouvertes le 30 juin.
Exact. Exact. C'est le 30 juin, on organise une journée porte ouverte.
À quel endroit?
À Taverny.
D'accord.
C'est
dans la zone des Châtaigniers, je crois.
Tout à fait. Donc, au 45 rue Condorcet. Donc, on va accueillir, tous ceux qui souhaitent venir découvrir un petit peu le métier, les formations qu'on propose. Donc, il y aura des ateliers avec des essais, avec des démonstrations, pour voir un petit peu comment on fonctionne. Donc, ça serait l'occasion de rencontrer nos partenaires, nos stagiaires, nos futurs candidats, tout le monde.
Oui, c'est l'occasion. Et donc, il faut s'inscrire pour participer à ces journées portes ouvertes?
Exact. Il faut s'inscrire. Donc, c'est sur notre site internet. On peut s'inscrire pour venir à la journée.
Donc Procariste, on cherche sur le...
Procariste.com.
Très bien. Et donc, vous nous l'avez dit aussi un petit peu, donc je me fais votre relais. Vous avez des offres d'emploi proposées en formateur conduit des engins automoteurs et formateur logistique CFA.
Tout à fait.
Voilà. Donc, si des personnes sont intéressées...
Si il y a des profils qui sont intéressés par ce type de poste, ils sont les bienvenus. On cherche aussi une petite jeune
en alternance. Assistant en formation. C'était la ligne suivante. Je ne voyais pas. Merci beaucoup, petit Sam Tati, pour ce partage de votre passion. On sent que vous en parlez avec beaucoup de...
Alors, aujourd'hui, dans
l'entreprise, vous êtes à la gestion. Vous êtes directrice,
Je suis directrice. Alors, j'ai multicasquette.
Oui.
Donc, je suis un petit peu partout. Je suis avec les équipes. En même temps, j'ai mon poste de direction. On est sur le terrain. Donc, on est chef d'orchestre. Il n'y a pas de... sans problème.
Et puis, un mot aussi sur votre engagement auprès d'Initiative 95.
Alors, pour Initiative, j'avoue que cette année, comme c'était une année assez chargée pour nous en termes d'activité...
Vous avez levé le pied.
J'ai levé le pied. C'est pas que pour Initiative, mais un petit peu pour tout, mais c'est une cause
qui
me tient à cœur et que je trouve très bien, très intéressante. Et j'encourage tous ceux qui ont un petit moment, qui ont le temps de s'engager avec Initiative justement pour les soutenir. Ils ont besoin aussi de bénévoles, de parrains pour accompagner les jeunes créateurs.
Une magnifique structure que nous soutenons à fond chez IDFM Radio. Merci petit Sam Tati pour ce partage de votre passion, je l'ai dit déjà, et bravo pour toute cette innovation. Voilà, et les coordonnées que vous nous avez données se retrouveront également dans le podcast.
Merci à vous. Merci.
Voilà, c'est presque la fin de l'émission. Voilà, il nous reste quelques minutes. Juste un tout petit mot de conclusion, Jamila Ouzine, avant de nous quitter.
Moi, en tout cas, je motive les chefs d'entreprise à aller jusqu'au bout de leur projet. Moi, je pense que c'est toujours important, voilà, de jamais baisser les bras. Et c'est vrai que petit Sam en est un bel exemple, hein, parce qu'elle est la fondatrice de sa société. Et c'est vrai qu'avec son mari, ils ont un beau parcours. Et je trouve que ça, c'est vraiment essentiel. Et on a la chance, nous, en France aussi, il faut le dire, hein, on le dit jamais assez, d'être accompagné.
Complètement.
Voilà, d'être accompagné, d'avoir des subventions. On l'a encore vu pendant la période de Covid. Hein, la France a été un bel exemple, hein, pour accompagner les chefs d'entreprise. Et je trouve que voilà, on a la chance d'être en France, de travailler en France, et d'être accompagné.
Il faut savoir l'apprécier.
Exactement, il faut savoir apprécier la chance qu'on a quand on est chef d'entreprise en France, même si effectivement on l'a dit tout à l'heure, c'est pas toujours facile, hein, mais voilà, faut rester optimiste, et je dis toujours, et c'est mon adage préféré, chaque problème a une solution. Donc concentrons-nous sur les solutions et pas les problèmes.
Ben, merci à Jamila pour ce mot plein d'espoir. Tissam Tati, un tout petit mot de conclusion.
Alors, je peux que continuer sur les propos de Jamila. Donc, effectivement, j'encourage tout chef d'entreprise à rester positif, à aller vers l'avant et de ne pas s'arrêter face aux obstacles. Donc, de toute façon, comme ce qu'on a dit au début,
ne pas baisser les bras.
Il faut pas baisser les bras. Les obstacles, il y en a tout le temps. Donc, mais il faut rester fort, il faut s'accrocher, il faut savoir s'entourer.
Oui.
Et il faut aussi partager, il faut qu'il y ait un échange entre les chefs d'entreprise toujours, parce que c'est les partages d'expérience, c'est quelque chose qui est important et qui peut aider la personne à avancer encore plus. Il faut fixer ses objectifs dès le départ et s'y tenir jusqu'au bout, petit à petit, et ne pas s'arrêter avec tout ce qui se passe autour. Donc, on est confronté à l'environnement extérieur, à l'environnement politique, à l'environnement économique, donc plus environnement social. Donc, enfin, il y a toujours des raisons de
vouloir s'arrêter, mais au contraire, il faut pas.
Il faut s'accrocher, il faut aller jusqu'au bout, qu'on soit une femme ou un homme. Il faut toujours rester fort.
Bah écoutez, merci à toutes les deux de votre entrain et j'espère que ces messages seront bien passés.
Merci Jacqueline.
Merci
Jacqueline.
Merci à vous tous qui êtes à notre écoute et nous savons que vous êtes de plus en plus nombreux. Merci Francky pour la technique et puis merci à vous d'avoir été nos invités. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Retrouvez comme bon vous semble son podcast sur le site idfm98.fr. À 11h, balade musicale avec Christophe Graffreau. Mardi prochain à 9h30, on se retrouve pour un nouveau numéro de l'économie en direct. D'ici là, bon week-end, prenez soin de vous et de vos proches. We'll be right back.